notre maison va-t-elle être déplacée, elle va-t-elle être démolie, où est-ce qu'on va habiter?
Ce sont des infractions qui sont graves, importantes et elles doivent être punies à la hauteur de leur gravité.
En bout de ligne, le projet a été présenté en 2016. Il va être prêt à la fin 2024. Ça, c'est moins de 10 ans.
Bonne fin de journée, tout le monde. La question n'est pas s'il va y avoir un autre glissement de terrain dans le secteur de la baie à Saguenay, mais quand il se produira. Ce sont en fait les propos assez inquiétants de la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, pour justifier cette évacuation d'urgence qui est survenue en fin de semaine. On parle d'une cinquantaine de résidences qui ont été évacuées d'urgence. Les élus, au moment où on se parle, sont en rencontre. C'est une question d'heure, peut-être même de minutes, avant que l'état d'urgence soit décrété là-bas. Au total, ce sont 76 résidences qui ont été évacuées, 187 personnes qui ne peuvent retourner chez elles et qui ne savent pas si elles vont pouvoir, en fait, le faire un jour. La ministre des Affaires municipales et responsable de la région, André Laforêt, sera avec nous dans un moment. Mais d'abord, on va se rendre en direct, justement, dans le secteur concerné où se trouve ma collègue Laurence Royer. Salut, Laurence.
Bonjour, Michel.
Il y a plusieurs sinistrés que tu as pu rencontrer aujourd'hui. Puis on le comprend, sont extrêmement inquiets et sont toujours sous le choc.
Oui, sous le choc. Imaginez, vers 10 h samedi soir, il y a un pompier qui vient cogner à leur porte, leur demande de quitter rapidement leur résidence, d'amener avec eux le strict minimum pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Bien, c'est ce qui est arrivé à une cinquantaine de foyers dans le quartier qui se trouve derrière moi. Et la semaine dernière, c'est arrivé également à 20 autres foyers de plus lorsqu'il y a un glissement de terrain qui a emporté une maison. Et tu l'as dit, on s'attend donc maintenant à un nouveau glissement de terrain, même que ça semble inévitable selon la municipalité. Alors, pour s'y préparer, on a élargi le périmètre de sécurité, ça veut dire ces nouvelles évacuations. On a construit également deux digues, comme on peut voir également derrière moi, pour retenir d'éventuelles coulées. On a mis aussi des clôtures pour éviter la circulation dans le quartier. Il y a toujours des expertises qui sont en cours. La Ville ne ferme pas la porte non plus à agrandir de nouveau le périmètre de sécurité. Ça voudrait dire de nouvelles évacuations, mais il est trop tôt pour en être certain. D'ailleurs, il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est vraiment ce qui est le plus dur là, pour les sinistrés actuellement. On peut les écouter.
À 10 h le soir, là, commencer à trimer un aquarium de 30 gallons autour du bras pour amener ça à l'auberge, c'est pas évident. Là. Fait que moi, les poissons, c'est pas des gros animaux, mais ils sont dans la maison puis ils vont mourir de faim. Je peux plus y aller. Ça fait une trentaine d'années que je suis là. J'ai fait des réparations dans ma maison. Puis c'est sûr, ça fait des pincements au cœur. Il faut que tu partes vite. Puis. Savoir, tu sais pas ce que tu vas avoir, fait que ça fait quelque chose. Là, tu sais, c'est, en dedans, tu n'es pas tout le temps bien.
Ouais, le plus dur, c'est surtout l'incertitude. Là, tu sais. Présentement, on n'a pas beaucoup d'informations, mais c'est juste normal, il y a des analyses à faire, etc.
Même eux, ils n'ont pas de réponse. Là. Fait que c'est dur de nous en donner, mais tu sais, notre maison va-t-elle être déplacée? Elle va-t-elle être démolie? Est-ce que, tu sais, où est-ce qu'on. Dans quelques mois, on va habiter? Tu sais, il va y avoir comme. Des 200 personnes qui vont devoir se retrouver une maison. Tu sais, on a majoritairement des propriétaires. Là.
L'incertitude, hein? L'incertitude de savoir si au cours des prochaines heures, prochains jours, ils pourraient tout perdre carrément. Là, Laurence, il y a la Ville de Saguenay puis le gouvernement qui s'organisent pour venir en aide à ces sinistrés.
Oui, exactement. Donc d'abord, cet après-midi, il y a eu une rencontre entre les sinistrés et le ministère de la Sécurité publique pour leur expliquer un peu l'aide financière à laquelle ils ont droit. Et il y a la Ville qui va tenir dans les prochaines minutes une séance extraordinaire du conseil municipal pour demander au ministère de la Sécurité publique de décréter l'état d'urgence. Ça permettrait à la municipalité de mettre des mesures en place beaucoup plus rapidement pour assurer la sécurité des citoyens, pour aider les sinistrés également. Et concernant l'aide financière, il y a le premier ministre François Legault qui a dit qu'il préférait attendre d'avoir plus de détails concernant la situation, est-ce qu'on va pouvoir sauver les maisons ou pas, avant de décider s'il allait bonifier l'aide financière. Et il envisage aussi là, la possibilité de venir rendre visite aux sinistrés dès demain.
Je trouve ça triste pour les 200 personnes qui ont dû être évacuées. On est en train de s'assurer avec Geneviève Guilbeault et André Laforêt que tout le monde soit relogé. On n'exclut rien pour ce qui est du remboursement. Si jamais c'est pas possible avec le ministère des Transports de stabiliser le sol, n'exclut pas que le montant de 260 000 par maison soit augmenté.
Alors, l'état d'urgence qui devrait être déclaré prochainement, on continue de suivre la situation de près.
Merci beaucoup, Laurence, en direct du secteur Labbé. On poursuit avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et surtout responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, André Laforêt. Bonsoir, Mme Laforêt.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. En ce moment, ce qui est prévu comme indemnisation, on a entendu le premier ministre en parler, 260 000 $ par habitation qui serait considérée perte totale. Et pour les citoyens relocalisés temporairement, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est un hébergement dans un logement meublé et 20 $ par jour par sinistré. Avec 20 $ par jour, c'est plus en plus difficile de se nourrir. On s'entend, là. Qu'est-ce que vous prévoyez comme aide supplémentaire du côté du gouvernement?
Oui, alors présentement, tout est à l'étude, tout est en train d'être analysé. Parce qu'il faut comprendre, quand on a des catastrophes ou encore des sinistres quelconques dans une municipalité, c'est toujours la même procédure. C'est 72 heures que la Croix-Rouge prend le relais, prend la responsabilité pendant 72 heures avec la municipalité. Maintenant, pendant 72 heures, c'est normal, les gens donnent les coordonnées, donnent les informations et c'est là qu'on prend toutes les informations, à savoir est-ce que les programmes pourraient bien fonctionner, est-ce que les programmes sont en mesure de répondre aux demandes des citoyens. Alors, présentement, c'est ça, c'est qu'on rassemble toutes les informations et oui, on est en train d'entendre les citoyens, mais ce que je peux dire, c'est qu'on est à l'écoute et s'il faut changer nos programmes, il faut comprendre que des programmes pour des glissements de terrain, c'est quand même assez rare. On a souvent des inondations. Des glissements de terrain, c'est assez rare, malheureusement.
On a, peut-être une expérience plus grande, comme vous dites, avec les inondations. On est peut-être mieux préparé. Décréter l'état d'urgence, concrètement, qu'est-ce que ça va permettre?
Bien, en fait, la procédure pour décréter l'état d'urgence, si on peut le dire ainsi, parce que c'est par arrêté ministériel, c'est que la Ville... décréter l'état d'urgence pendant 48 heures. Maintenant, pour continuer l'état d'urgence, ça prend un arrêté ministériel de la ministre de la Sécurité publique. Le conseil municipal doit adopter une résolution. Donc, tout ça se fait dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Ville-Saguenay va adopter une résolution avec son conseil municipal. Maintenant, tout de suite après, on travaille vraiment en collaboration et Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, est prête à signer un arrêté ministériel. Donc, toutes les mesures seront prises. Ce que ça va permettre, je peux vous donner par exemple, c'est des mesures, des contrats, par exemple, de gré à gré, ou encore si on a besoin d'hébergement spécifique pour des citoyens qui veulent un hébergement spécifique également. Donc, ça va beaucoup plus vite et ça permet des mesures que, normalement, il ne faudrait pas aller en appel d'offres, mais plutôt, là, on va pouvoir passer... Donc...
Ça permet d'aller plus vite, de sortir de l'argent plus rapidement également. Vous avez parlé de relocaliser les gens, les héberger. C'est un défi, ça aussi. On est à quelques jours du 1er juillet, puis déjà dans bien des régions, en tout cas, vous me direz si c'est ça particulièrement du côté de Saguenay également, il manque de logements. Alors là, vous vous retrouvez avec presque 200 personnes à reloger, peut-être temporairement, on le souhaite pour eux. On fait ça comment?
Bien, on fait tout notre possible. Vous comprendrez que ce matin, j'ai passé l'avant-midi avec l'Office d'habitation de Saguenay. On a tout de suite, à cette heure-ci, 40 logements. Hier, on avait 25, là, on est rendu à 40. Bon. Alors, c'est quand même très positif. Il faut voir aussi que là, présentement, moi, j'ai téléphoné et on a 30 demandes de logements. Donc, il y a 30 demandes, on a 40 logements disponibles. Alors, moi, il faut rassurer les citoyens. On est là pour bien vous loger. Il faut absolument vous sécuriser. On est là. Puis, soyez pas inquiets, Québec et Chicoutimi, avec également le député de ville de la ville de Dubuc, François Tremblay, avec la mairesse de Saguenay, il n'y a pas une mesure qu'on va empêcher de donner pour sécuriser les citoyens, ça, c'est certain.
Il n'y a pas de doute, il y a du travail qui se fait en ce moment, mais il y a toujours cette incertitude. Ce n'est probablement pas une affaire de 2-3 jours. Dans certains cas, ça pourrait peut-être durer des mois. Et là, on ne l'espère pas, mais peut-être des années. Vous êtes député de Chicoutimi, ministre responsable, je le disais, de la région. Ça vous fait quoi de voir que la région est encore une fois touchée par un événement du genre? Heureusement, dans ce cas-ci, il n'y a pas de décès, là, mais quand même, on pense, entre autres, à Saint-Jean-Vianney, au déluge également. C'est pas la première fois que la région est touchée comme ça. Comment vous prenez ça?
Non, vous avez raison. Mais c'est sûr que c'est très touchant, c'est très triste. Moi, ça vient vraiment me chercher. Par contre, on a pris des mesures parce qu'il y a 2 ans, notre gouvernement a adopté justement des schémas d'aménagement et une cartographie nouvelle pour ne plus construire et reconstruire en zone inondable, pour ne plus construire sur des zones à risque. C'est important de le mentionner. On a fait ça il y a 2 ans. Parfois, ça ne fait pas plaisir aux municipalités, mais c'est pour éviter des situations comme on le vit présentement, parce que ce n'est pas la faute des citoyens présentement ce qu'ils vivent. Et également, on prend également toutes les mesures. On vit certains changements climatiques. On a la politique d'aménagement du territoire également. Mais ce que je peux vous dire, c'est que notre région est vraiment bien surveillée. De par le déluge, comme vous le dites, depuis 1995, on a des gens à Ville-Saguenay, des ingénieurs avec des chercheurs.
On a appris du passé. Mais quand même, ça reste qu'il y a toute une question des sols, plus particulièrement. C'est assez particulier. Je vous remercie beaucoup, Mme Laforêt, d'avoir été avec nous. On va certainement refaire le point ensemble au cours des prochains jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Oui, merci à vous également. Au revoir.
Au revoir. Je vous parlais des sols, mais on va revenir sur ce dossier-là un peu plus tard à l'émission pour tenter de comprendre le type de sol, son comportement. On va faire ça avec un géologue. Ce sera dans les bulletins régionaux de Saguenay et du Grand Montréal autour de 17h30. Maintenant, parlons de la guerre en Ukraine qui se poursuit pour une 117e journée, oui, et les bombes russes continuent de ravager le pays, particulièrement dans la région du Donbass. Les forces ukrainiennes perdent de plus en plus de terrain. Et une des raisons qui explique ça, bien, c'est que les armes des pays occidentaux mettent du temps à arriver au front. En plus, bien, les Ukrainiens doivent se familiariser avec les armes avant de pouvoir les utiliser. Le gouvernement Zelensky affirme perdre jusqu'à 200 soldats imaginés par jour dans une guerre qui pourrait durer des années. Ça, c'est ce qu'avance le secrétaire général de l'OTAN. Et chez nous, pendant ce temps-là, bien, le gouvernement canadien a annoncé des mesures pour protéger davantage le continent contre d'éventuelles menaces provenant notamment de la Russie. Il y a près de 5 milliards de dollars qui seront investis sur 6 ans pour moderniser le programme NORAD, l'organisation militaire canado-américaine, là, qui surveille l'espace aérien, mais également maritime du continent. L'une des priorités de ce plan, bien, c'est la mise à niveau du réseau de radars, dont la grande majorité se trouve en sol canadien.
C'est notre mise à niveau la plus importante depuis près de 4 décennies. Le Canada ne peut pas compter uniquement sur sa géographie pour nous protéger. Il est plus important que jamais de veiller à ce que les membres des forces armées canadiennes disposent des outils dont ils ont besoin pour assurer notre sécurité.
L'ex-chef du Parti québécois, André Boisclair, a décidé de régler son dossier avec la justice. Il a plaidé coupable cet après-midi au Palais de justice de Montréal à 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle, alors que son procès n'était même pas encore commencé. Les 2 victimes auraient d'ailleurs livré des témoignages troublants à la suite de ce plaidoyer de culpabilité. On va en parler tout de suite avec notre collaboratrice, Nada Boumefta, qui est avocate en droit criminel. Salut, Nada.
Bonsoir.
D'abord, on va aller avec les faits, un retour sur les événements. Dans le dossier, il a reconnu avoir dirigé, en fait, le viol collectif d'un jeune, c'est ça?
En fait, 2 choses. Un des premiers dossiers concernant le premier plaignant, on va l'appeler comme ça pour un dossier qui date de 2015, il faisait face à une accusation d'agression sexuelle et là-dessus, il a plaidé coupable. Il fait donc face à une peine minimale de 1 an. Et c'est dans le deuxième dossier, ciblant un autre plaignant, cette fois-ci pour des événements qui datent de 2014, où les accusations sont spécifiquement reliées à une agression, effectivement, qui aurait eu lieu avec des tierces personnes, pour laquelle il est plaidé coupable aujourd'hui. Et c'est, au sens du code criminel, considéré comme un facteur aggravant, pour lequel il fera face aussi à une peine minimale de 1 an.
Donc, on parle de 2 dossiers, des victimes dans 2 dossiers séparés, c'est ça, là?
C'est ça, donc 2 plaignants distincts dans 2 dossiers distincts.
C'est précisé. Parfait. Qu'est-ce qui explique maintenant qu'il plaide coupable avant même le début de son procès?
Alors, excellente question. Ce sont plusieurs éléments qui peuvent influencer une décision comme ça en défense. Généralement, c'est suite à l'analyse du dossier, mais aussi à la pertinence ou non de présenter une défense dans le cadre de dossiers comme ceux-ci. Souvent, ce sont des défenses où on aura des versions contradictoires. Donc, la version de l'accusé sera présentée en contrepartie de celle du plaignant qui va venir témoigner. Dans le deuxième dossier, ce qui est particulier toutefois, c'est le fait qu'il y ait eu d'autres personnes, donc possiblement d'autres versions qui corroborent ou la version du plaignant ou celle de l'accusé. Mais ici, dans les circonstances, en défense, on a jugé qu'il était mieux dans son intérêt de plaider coupable avant que le procès ne débute.
Bon, tu dis mieux dans son intérêt. Qu'est-ce que ça change justement pour un suspect de plaider coupable plutôt que de tenir un procès? D'abord, on raccourcit tout le processus, là.
Et ça, c'est considéré, effectivement, Michel, lorsqu'on décide de plaider coupable avant la tenue d'un procès, soit avant l'audition de témoins, avant de passer devant le tribunal et laisser la décision entre les mains d'un juge, eh bien, c'est considéré comme un facteur atténuant lorsqu'on est capable de, finalement, acquiescer aux accusations auxquelles on fait face. Il y a une forme, donc, d'admission de la part d'un accusé lorsqu'il plaide coupable. Et c'est ce qu'on considère donc comme facteur atténuant lorsqu'on va imposer la sentence.
Bon, parlons de la suite. Qu'est-ce qu'on sait, le genre de peine là, qui pourrait lui être imposée?
Alors, déjà, dans le dossier concernant le plaignant en 2015, dans lequel il faisait face à un chef d'agression sexuelle, il fait face, en fait, à une peine minimale de 1 an de détention. Alors, on ne peut pas plaider autre chose qui serait plus bas que ça. Ça serait à l'encontre du code criminel. Et il fait face à une sentence maximale de 10 ans, alors qu'au chef d'accusation dans le deuxième dossier, puisqu'il y a le facteur spécifique que c'était avec une personne tierce, il fait face à un maximum de 14 ans, une peine minimale de 1 an. Mais dans ce cas-ci, il y a eu suggestion commune des deux parties, couronne et défense, pour une peine de 2 ans moins un jour.
Bon, on faudra voir si le juge accepte cette proposition-là de 2 ans moins un jour. La peine sera connue le 18 juillet. C'est donc à suivre. Merci beaucoup, Nada, d'avoir été avec nous ce soir.
Merci. Au revoir.
Au revoir. On va devoir s'armer de patience, oui, encore une fois, pour la livraison du REM, le réseau express métropolitain, parce qu'il faudra attendre à la fin 2024 pour l'ouverture de la majorité des stations. On en parle avec ma collègue Fanny Lachance-Paquette. Salut, Fanny.
Salut, Michel.
Alors, c'est encore une fois les travaux dans le vieux et long tunnel Mont-Royal qui causent les retards.
Ouais, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui CDPQ Infra qui est en charge du projet. Ce sont donc 18 des 26 stations qui ne vont ouvrir qu'à la toute fin de 2024, alors que ce qu'on avait annoncé, c'était des ouvertures par phase à partir d'automne 2023 jusqu'à automne 2024. Alors, les stations qui vont être particulièrement touchées, bien, ce sont celles du centre-ville, de l'ouest de l'île de Montréal aussi, et celles de la rive nord. Pour ce qui est des stations de la rive sud, on n'y touche pas. Alors, ça devrait ouvrir comme prévu en décembre prochain. Et pourquoi c'est ici là? Bien, on l'avait dit, hein, Michel, qu'il y avait des explosifs qui avaient été trouvés dans le tunnel Mont-Royal. Mais aujourd'hui, le projet du REM, les gens de l'équipe ont expliqué quelle était finalement la complexité des travaux.
Maintenant, au lieu d'avoir des travaux manuels de forage, il faut le faire avec des équipements robotisés à distance. On parle de 60 000 trous de forage, c'est beaucoup plus long. On a aussi vu un état de dégradation très avancé sous la rue McGill College. Tout le mur central devait être complètement rebâti. Alors, il a fallu faire ça également. Et ça, ça a pris évidemment plus de temps. Et en bout de ligne, il y a aussi le contexte pandémique. Mais derrière la pandémie, il y a la pénurie de main-d'œuvre, il y a les enjeux d'inflation, il y a les enjeux aussi de sanitaires qui ont perduré pendant plus de 2 ans.
Bon, et ce qui dure, bien, c'est les automobilistes qui continuent de subir le trafic qui a repris d'ailleurs.
Oui, effectivement, c'est particulièrement difficile. Puis aujourd'hui, le ministre des Transports, François Bonnardel, en a parlé, a dit qu'on allait continuer les mesures d'atténuation, particulièrement dans le secteur de Deux-Montagnes, sur la rive nord de Montréal, qui est un secteur qui est particulièrement touché depuis le tout début des travaux, parce que là-bas, bien, on a moins d'offres de transport en commun depuis.
Et présentement, les services que nous offrons avec nos différents partenaires, que ce soit la RTM, l'Exo ou autre, la STM, ça fait le boulot, là. Ça fait le boulot. Et si on doit améliorer ces mesures dans les prochaines semaines, prochains mois, sinon les 2, 3, 4 prochaines, pas 4, mais les 2 prochaines années, on le fera.
Et Michel, quand on entend le ministre Bonnardel, on a l'impression que ça se passe bien, mais il y a des maires d'arrondissement de l'ouest de l'île de Montréal qui n'ont pas tout à fait la même vision et qui auraient aimé être consultés davantage dans le projet pour trouver des solutions pour justement qu'il y ait moins de congestion routière. Mm-hmm. On parle d'avoir plus de voies réservées, plus de passages d'autobus aussi, parce qu'effectivement, ça commence à être plutôt dense dans le secteur. Et ce qu'on sait, bien, c'est que ces ralentissements-là du projet, ces retards, bien, ça se fera avec un coût, Michel, mais on ne sait pas encore le montant. La Caisse n'avait pas les chiffres aujourd'hui. Mais ce qu'on sait, c'est que le projet est estimé en ce moment à près de 7 milliards de dollars.
Alors, 2024, puisqu'on ne sait pas non plus, c'est ce sera quand, à quel moment on pourra se rendre jusqu'à l'aéroport de Montréal, parce que ça aussi, il y a des retards pour cette station-là. Merci beaucoup, Fanny.
Merci.
Bon, parlant d'aéroport, il y a de nouveaux assouplissements sanitaires qui entrent en vigueur aujourd'hui pour les voyageurs. Le passeport vaccinal est désormais plus exigé pour les Canadiens qui voyagent à l'intérieur du pays. Les Canadiens non vaccinés peuvent donc se déplacer plus, libre, plus librement, oui, pardon. Pour ce qui est des voyageurs étrangers qui arrivent ici au Canada, les non-vaccinés devront continuer de présenter un résultat de test négatif pour entrer au pays. Le président français Emmanuel Macron a perdu sa majorité à l'Assemblée nationale. Quel impact ce résultat aura-t-il sur la gouvernance de la France? Ben, on en parle au retour. Le deuxième tour de l'élection législative qui s'est tenue en France hier vient vraiment de changer complètement, en fait, le portrait politique français. Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue. Le parti de Marine Le Pen devient pour une première fois une vraie opposition. On en parle avec Hélène Jouan, correspondante à Montréal pour le quotidien Le Monde. Bonsoir, Hélène.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Hey, c'est la première fois qu'un président perd sa majorité absolue. Il s'agit d'une véritable défaite, donc, pour Emmanuel Macron, qui perd en même temps plusieurs figures importantes de son gouvernement.
Ah oui, c'est une situation totalement inédite. Aucun président de la République fraîchement élu sous la Ve République n'avait à ce point, effectivement, perdu aussi radicalement sa majorité absolue. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron perd ses généraux, en quelque sorte, les plus proches, ceux qui ont été ses conseillers politiques pendant le dernier mandat présidentiel. Mmh. L'ancien président de l'Assemblée nationale a échoué à se faire réélire. L'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a échoué à se faire réélire. Ouais. C'est donc un véritable camouflet personnel, en effet, pour le président de la République.
Bon, on va voir justement un peu les résultats. Puis on voit que l'extrême droite fait une entrée historique là, dans l'Assemblée. Marine Le Pen qui promet d'incarner une opposition ferme, sans connivence. Que penser de ce... c'est un succès, là. C'est une réussite là, pour le parti de Marine Le Pen.
C'est un succès auquel elle-même ne s'attendait pas. Elle était convaincue au début de la campagne législative qu'Emmanuel Macron retrouverait d'ailleurs une majorité absolue. Ce qui s'est passé, d'abord, il y a eu un fort rejet du président de la République qui n'a pas fait campagne. Il avait déjà fait peu campagne pour l'élection présidentielle. Il avait été élu par défaut, en quelque sorte, contre Marine Le Pen. Pour ces élections législatives, il n'a pas fait campagne. Et puis, il y a quelque chose qui a joué dans l'électorat, c'est qu'en réalité, il n'y a plus de réflexe de front républicain. Ce front républicain, vous savez, c'est cette façon de dire « jamais l'extrême droite ne doit arriver au pouvoir ». Le parti présidentiel a refusé de donner des consignes claires et les électeurs se sont sentis totalement libres, finalement, de faire ce qu'ils voulaient, alliés au rejet personnel, encore une fois, dont fait l'objet aujourd'hui Emmanuel Macron. Eh bien, ça donne ce résultat. Aujourd'hui, le Front national arrive avec un nombre de députés absolument historique, 89 députés. Le dernier record, c'était 35 députés seulement, c'était en 1986.
Bon. Et alors, c'est vraiment tout un changement. Il y a des observateurs qui pensent que tout ça va plonger la France dans une instabilité politique. La grande question, c'est vraiment comment l'Assemblée nationale va fonctionner.
Eh bien, en réalité, on n'en a aucune idée parce que la France n'a pas la culture de coalition ou de compromis d'autres démocraties comme l'Allemagne, par exemple, le voisin français. Donc, est-ce que le président de la République va essayer de négocier au cas par cas sur certains textes? Ça va être très compliqué. Personne aujourd'hui n'a envie de l'aider. Pas la droite qui a sauvé quelques députés avec quand même un peu plus de 70 députés. Surtout pas, évidemment, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Il a quelques possibilités pour lui. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est possible, peut-être pas immédiatement, mais en cas de blocage, il a cette arme-là institutionnelle à sa main. Non. Dernière possibilité, eh bien pourquoi pas une démission carrément du président de la République qui pourrait dire « plus rien ne fonctionne, le pays est paralysé, le pays est bloqué, je décide de me retirer, pourra-t-il se présenter pour un nouveau mandat ?» La Constitution est assez compliquée là-dessus parce qu'elle dit normalement deux mandats. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les semaines, voire dans les mois qui viennent.
Donc, une alliance avec le parti de Macron, c'est peu probable. C'est ce qu'on en comprend. Les alliances, ça risque d'être davantage dans l'opposition en 10 secondes.
Ça peut se faire au cas par cas sur quelques textes. Par exemple, sur le pouvoir d'achat, il y avait un texte qui était prévu. Là, peut-être que le président Macron peut trouver une majorité, à gauche comme à droite d'ailleurs. Ouais. Mais imaginez faire une réforme des retraites très impopulaire. Va vouloir travailler avec lui?
Ce sera compliqué. Merci beaucoup, Hélène.
Compliqué.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
On reste dans le on va parler maintenant au pays d'un comité parlementaire du côté d'Ottawa qui entend en ce moment les témoignages de trois dirigeants et ex-dirigeants de Hockey Canada. L'organisation est plongée, en fait, dans la tourmente après que des allégations de viol collectif impliquant des jeunes, des joueurs d'âge junior ont fait surface. On fait le point avec notre collaboratrice Mélanie Marquis, qui est sur la colline parlementaire. Salut, Mélanie.
Allô, Michel.
D'abord, rappelle-nous un peu brièvement ces allégations. On parle d'agressions sexuelles qui seraient survenues en juin 2018 à London, en Ontario.
Exact. Et ce sont des joueurs de la Ligue canadienne de hockey qui auraient commis donc ce viol collectif, pardon. Cette affaire-là, donc, comme tu dis, s'est produite en 2018, mais elle a fait surface seulement en 2022, au moment où la plaignante, donc une jeune femme qui a aujourd'hui 24 ans, a déposé une poursuite contre Hockey Canada, contre les joueurs impliqués aussi. Et donc, Hockey Canada est plongé dans la tourmente, comme tu disais, et aujourd'hui, à quelques salles d'ici, sont encore en train de parler, de répondre aux questions des députés.
Des dirigeants et ex-dirigeants, donc, de Hockey Canada qui poursuivent leur témoignage. Qu'est-ce qui a été dit jusqu'à présent?
Bien, d'entrée de jeu, on s'est défendu d'avoir voulu procéder à une opération de camouflage. On a dit qu'on était en passe d'essayer de réformer la culture au sein de l'organisation, mais il y a quelques révélations qui ont été faites et qui ont, ma foi, fait bondir quelques députés, notamment le fait que Hockey Canada a réglé, donc a payé au nom des joueurs le règlement hors cours qui a été conclu avec la plaignante. On ne sait pas non plus combien de joueurs ont participé à l'enquête indépendante qui a été confiée à une firme torontoise. Mm-hmm. Et donc, même si on dit ne rien vouloir balayer sous le tapis, il reste beaucoup de questions sans réponse auxquelles on va peut-être répondre dans les prochaines minutes. Mais chose certaine, disons qu'il y a un voile de secret là, qui plane
sur l'organisation. En tout cas, visiblement, il y a des choses qui ne sont pas dites publiquement. Pour la suite, tu parlais, bon, bien sûr, ça se poursuit là, encore pour, je pense, une bonne heure. Là. Il y a la ministre des Sports, Pascale Saint-Onge, qui est attendue d'une minute à l'autre.
Oui, c'est ça. Elle devrait témoigner. Le comité a commencé avec un peu de retard, là, donc on l'attend dans peut-être 15-20 minutes. Et pour la suite des choses, il faudra voir ce que le comité va faire. Le comité n'a aucun pouvoir comme tel, mais il pourrait très bien décider de produire un rapport qui ensuite se retrouverait entre les mains des parlementaires et donc on pourrait poser des gestes, mais ce que le comité va faire, ça reste à déterminer. Peut-être qu'il y aura d'autres audiences aussi. Ça reste quelque chose à suivre parce qu'on ne cesse de découvrir des choses à force de gratter, là, comme on le constate aujourd'hui.
Donc, ça se poursuit. On te laisse aller écouter ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Mélanie.
Avec plaisir, Michel.
Bye-bye. À bientôt. Vous vous souvenez sans doute du fameux panier bleu, cette initiative d'achat local lancée en grande pompe au début de la pandémie. Eh bien, Québec a enfin trouvé des partenaires pour en faire un site transactionnel. Le gouvernement espère en fait que le site pourra s'imposer face au Amazon de ce monde. Il va falloir travailler fort et être patient parce que selon un sondage Net Tendance, seulement 14 % des Québécois ont utilisé le site. Pourtant, 22 millions de dollars ont été injectés dans le projet, dont 12 qui viennent d'Investissement Québec. Alors voilà, il faudra attendre pour cette partie transactionnelle qui devrait suivre bientôt. On s'arrête quelques minutes. Vos bulletins régionaux, tout de suite, après la pause. On revient sur la situation dans l'arrondissement Labbé à Saguenay, où l'état d'urgence là, devrait être décrété sous peu dans le secteur donc, de Labbé, où il y a près de 200 personnes, je vous le rappelle, qui ont été évacuées alors qu'il y a un nouveau glissement de terrain qui serait imminent. On va tenter ensemble de comprendre pourquoi ce secteur-là plus particulièrement est problématique. Quel est le genre de sol au juste? Mon invité, Ali Saïdi, il est professeur au département des sciences appliquées de l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonsoir, M. Saïdi.
Bonsoir.
C'est un terrain quand même connu, un terrain ou un sol quand même connu. On parle d'un sol argileux, on en retrouve beaucoup au Québec, entre autres du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment on explique qu'on ait construit des maisons il y a des décennies sans problème, puis qu'aujourd'hui, là, ça glisse comme ça? On a vu une maison carrément glisser la semaine dernière et être complètement détruite.
Écoutez, donc, pour avoir normalement un glissement, normalement, on aura besoin de quelques conditions, on dirait. Si quelques conditions soient être là, on dirait, premièrement, c'est géomorphologie des terrains qui pourra changer au cours du temps à cause de plusieurs phénomènes comme l'érosion, etc. La deuxième facteur de déclenchement, facteur qui est important, c'est le type de sol. Et le type de sol ici, quand même, on dirait, le type, on est sur un sol argile sensible, mm-hmm. qu'on a partout au Québec, dans certains endroits, pas tous nos argiles qui sont sensibles, même à Saguenay. Donc, on a quand même certains sols qui sont sensibles, certains endroits que le sol est sensible, y compris quand même le cas de Saint-Jean-Vianney aussi. Donc, c'est un sol sensible, ouais. c'est existant. Et le troisième facteur, c'est le facteur d'environnement. Donc, le facteur d'environnement, c'est plus la pression de l'eau dans le sol. Mais si vous voulez, dans un langage simple, c'est quoi le niveau de nappe phréatique, nappe d'eau?
Parlons justement de l'eau, parce que j'entendais la mairesse dire que la pluie a plus d'incidence en ce moment. Ça veut dire quoi? Qu'on ait un temps sec ou pluvieux, ça ne changera rien? Il y a une coulée de boue qui peut se produire n'importe quand? Parce que quoi? Le sol est déjà gorgé d'eau?
Il faut pas quand même... Je ne peux pas répondre précisément à cette question-là puisqu'il faut avoir l'analyse de données. Je sais qu'il y avait un sondage hier, je n'ai pas d'accès à ce sondage-là, et aujourd'hui, il y avait certains sondages, certains quand même de forage qui étaient faits mm-hmm. dans ce secteur-là. Il faut avoir le niveau de nappe. Si le niveau de nappe, elle est dans le cas critique, ça veut dire sur la surface, si on va avoir plusieurs temps en nouveau pluie, peut-être il ne va pas avoir l'influence, vous comprenez? Donc, c'est pour ça, je dis, si le niveau de nappe elle est à l'état critique, oui, on pourra dire que la pluie ne peut pas avoir l'avancement, l'incidence. Okay. Sauf si on a dans l'autre cas, normalement, il pourra avoir l'incidence.
Monsieur Saïdi, quels sont les signes à surveiller qui pourraient indiquer qu'il y a un glissement, un décrochage qui pourrait se produire?
Les signes, quand même, il y a plusieurs signes, quand même, le géotechnicien, il peut le regarder, ça dépend du type de sol. Dans le sol argileux que nous, on a, les signes qu'on voit quand même pas mal couramment, peut-être, dans plusieurs cas, c'est de voir est-ce qu'il va avoir une fissuration de terrain, est-ce qu'il était fissuré en haut, au sommet de talus. Donc ça, c'est un signe quand même, ça montre que le terrain est actif. La deuxième chose, quand même, le nouveau petit glissement, comme on voit que celle-là, ce n'était pas vraiment petite, mais le cas qu'on vient de voir à la baie, donc la maison qui sont partis, ça fait moins qu'une semaine. Ouais. Donc, c'est ça qui sont un peu, donc ça pourrait être l'autre signe. C'est parce que c'est un glissement, dans ce genre de sol-là, c'est un glissement, il s'appelle fortement rétrogressif, ça veut dire qu'ils vont partir en palier.
En palier. Dites-moi, comment on monitore ça? Parce que, bon, s'il y a une fracture, on peut la voir à l'œil nu. J'imagine que, bon, des craquements dans une maison peuvent permettre de se dire, bien, c'est en train de bouger en ce moment, on évacue. Mais là, comment on monitore tout ça? Quoi, il y a des senseurs dans le sol par endroit?
Ça dépend de cas. Je dirais, en général, le ministère, quand même, en collaboration avec la municipalité, ils ont un très bon programme. Ils ont fait un zonage, de microzonage, si vous voulez, de risque de glissement. Et ils vont surveiller quand même le glissement. Par exemple, je donne l'exemple de la ville de Saguenay. Chaque année, il va avoir trois stagiaires au moins, donc dans des gens de génie civil et génie géologique qui vont être sur place et ils vont l'aider. Et il y a des endroits ciblés. On va aller tout le temps visiter s'il va avoir la possibilité. Dans le cas précis qu'on le voit, par exemple, les gens de MTQ, lorsqu'ils ont fait un sondage, ils ont vu que quand même, à certaines profondeurs, on a quand même certaines parties de sol, c'est comme affaibli dans un langage simple. Donc, c'est comme ça pourrait montrer une surface de glissement, si vous voulez.
En terminant, vous avez fait allusion à Saint-Jean-Vianney tout à l'heure. Est-ce qu'on parle vraiment du même type de sol?
Exactement. Donc, on parle de même type de sol. C'est un argile sensible. À la baie, il y a certains endroits qui sont situés sur l'argile sensible. Et à Saint-Germain, c'est la même chose. Et encore une fois, l'une des raisons qu'aussi on va être vigilant là-dessus, parce qu'à Saint-Germain, c'est le 28, le premier glissement a eu lieu le 28 avril. Et après quelques jours, on a eu la deuxième type. On a eu le plus gros glissement.
Catastrophe du côté de Saint-Jean-Vianney en 1971. 31 personnes sont mortes dans ce gigantesque glissement de terrain. Depuis, on a appris, on monitore davantage, on zone les endroits qui peuvent être à risque. Là, pour l'instant, on le rappelle, heureusement, il n'y a pas eu de décès du côté du secteur de la baie. Mais on surveille la situation. Merci beaucoup, M. Saïdi, d'avoir été avec nous, nous avoir donné vos éclairages ce soir.
De rien, au plaisir.
Au plaisir, au revoir.
Au revoir.
Maintenant, près de trois mois après la tenue du Forum montréalais sur la violence armée, on vous en parlait régulièrement sur nos ondes, il y a le rapport des consultations qui a été dévoilé aujourd'hui. On y propose des dizaines de pistes d'action pour s'attaquer la manière la plus efficace possible à ce fléau. Mais est-ce que ce sera suffisant? Bon, on va commencer à parler de ce rapport avec mon collègue Louis-Philippe Bourdeau. Salut, Louis-Philippe.
Salut, Michel.
T'as traversé ce rapport, toi, aujourd'hui. On constate qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire.
45 pages de ce rapport qui a été déposé aujourd'hui, Michel, qui résume essentiellement les conversations, les pistes de réflexion des intervenants lors de ces deux jours de forum. Rappelons le contexte du forum. Ça s'inscrit dans un contexte d'augmentation des violences armées à Montréal, dans un contexte où des jeunes ont été abattus dans les rues de la métropole. Et donc, on établit des dizaines et des dizaines de pistes de solutions pour s'attaquer efficacement à ce fléau, encadrer les jeunes et les éloigner de la violence armée. Maintenant, on va tenter de résumer tout ça le plus simplement possible en quatre grands points. Le premier, bien, c'est la concertation. Donc, concerter entre le milieu communautaire, social, le milieu institutionnel, les policiers, des gens qui travaillent des fois en silo, bien, il faut mettre ça de côté. On propose, entre autres, la création de cellules d'urgence lorsque c'est nécessaire, les tables de concertation locales dédiées exclusivement à la violence armée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien, c'est un meilleur partage de l'information, notamment entre les policiers et les intervenants sur le terrain. Des fois, il y a une confiance qui est brisée. On l'a lu dans le rapport. Il faut rétablir ce lien de confiance parce que le partage d'informations, bien, ça peut sauver des vies. Ça permet de garder une trace sur des jeunes qui sont peut-être plus à risque. Troisième point du rapport, bien, des intervenants qui sont formés, outillés. Je l'ai entendu à plusieurs reprises, des intervenants qui se sentent un peu dépassés par ce qui se passe sur le terrain, veulent être au fait des meilleures pratiques. Mais pour y arriver, bien, il faut avoir l'argent du financement durable pour les organismes communautaires. Et puis finalement, bien, un sentiment d'appartenance des jeunes, et ça passe par des infrastructures qui parlent aux jeunes, des infrastructures sportives, artistiques, également s'attaquer aux conditions socio-économiques de ces jeunes-là. Donc, beaucoup de choses, et le rapport n'établit pas d'ordre de priorité. Mm-hmm. Donc, j'ai posé la question à un criminologue, par où faut-il commencer? Bien, voici la réponse de Maria Mourani.
L'un des éléments les plus importants pour du court et du moyen terme, c'est le renseignement. Et ça, ça passe par l'échange d'informations entre, bien sûr, les policiers, mais tous les groupes communautaires qui sont sur le terrain et qui, parfois, ces intervenants-là peuvent voir des armes, peuvent connaître qui sont les jeunes impliqués, etc., sans être forcément des délateurs. Ça, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre.
Bon, et pendant qu'on se parle, on sait que ces temps-ci, il y a encore des coups de feu qui se tirent dans les rues de Montréal. Est-ce qu'on peut donc s'attendre à des actions rapides, comme l'espèrent bien des citoyens de Montréal?
C'est la question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, bien, tous les acteurs ont pris note des propositions du rapport. Ils ont dit on est prêt à agir, mais Maria Mourani me l'a dit, il faudra être patient, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par le passé, il y a eu de telles consultations, des rapports qui sont arrivés un peu aux mêmes conclusions, mais pas nécessairement d'action. Donc, on espère que cette fois-ci sera la bonne. Rappelons qu'il y a également un comité de suivi qui sera mis sur place pour s'assurer qu'on fasse un suivi des engagements pris lors de ce forum. Et parlant du forum, bien, on s'attend à un autre rendez-vous l'an prochain, donc en 2023, pour faire le point sur la situation. Ouais.
Mais on ne veut surtout pas entendre parler de tablettes pour ce rapport-là. On a besoin que les choses évoluent. Louis-Philippe Bourdeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Michel. Bye salut. Bye.
Se sortir de l'enfer de la drogue, c'est une épreuve de tous les jours. Pour les femmes qui ont été prisonnières de cet enfer, l'encadrement et le soutien font vraiment toute la différence. Et c'est la mission, en fait, de l'organisme Portage qui vient d'inaugurer une résidence du côté de Prévost, c'est dans les Laurentides. Anaïs a rencontré une jeune femme qui recommence à vivre.
Ça fait presque 3 mois qu'on a emménagé dans le manoir ici, mais ça fait 6 mois et demi, dans le fond, que je suis en thérapie à Portage. J'arrive de vraiment loin, en plus, là. J'ai passé 2 ans en rue. J'avais un copain, dans le fond, qui vendait, puis ben, je consommais vraiment beaucoup, vraiment. Puis je consomme depuis que j'ai 12 ans. Puis j'ai commencé les drogues dures, j'avais 16 ans. J'ai commencé le fentanyl, j'avais 16 ans, dans le fond. Parce qu'avant d'arriver ici, des fois, je dormais pas pendant 3 jours. Je vivais la nuit ou le jour. J'avais vraiment aucune structure dans ma vie. Puis ça a vraiment été la grosse différence depuis que je suis arrivée ici, la structure.
Puis là, t'as quel âge?
28. Puis ça va faire 7 mois que je suis à jeun.
Bravo. Vous inaugurez la maison des femmes. Pourquoi c'est important d'avoir une maison pour les accueillir, ces femmes-là?
Ce qui est important de comprendre, c'est que chez Portage, avant l'achat de la nouvelle résidence, c'est que les femmes avaient quelques chalets. Puis, dans la bâtisse principale du côté des hommes, il y avait une pièce à elles qui était dédiée pour faire leurs démarches durant la journée. Le fait que les femmes aient leur propre résidence aujourd'hui, mais ça met tout à l'avant-plan le principe de la communauté thérapeutique. Puis dans cette maison-là, elles vont pouvoir reprendre en main leur parcours, leur vie. C'est le principe de la communauté thérapeutique, c'est vraiment l'entraide. Mmh. Donc le plus vieux va aider le plus jeune. Le plus jeune est nécessaire parce que bientôt, ça va être lui qui va aider l'autre nouveau.
C'est le fait d'arranger nos chambres, on a fait la déco, on a tout fait nous-mêmes, ça crée quand même un gros sentiment d'appartenance.
Comment ça va influencer, tu penses, quand tu vas revenir dans le monde extérieur?
Bien, c'est sûr que je vais être plus organisée, plus autonome. Mais je veux dire, en ce qui concerne mes parents, mes collègues de travail ou n'importe qui, la confiance était complètement détruite, là.
T'étais comme la personne pas fiable.
J'étais la personne pas fiable. Il faudrait peut-être pas laisser traîner nos affaires, là, parce qu'il y a une graine à la consomme, puis... J'étais pas trop stable, puis je trouve que de rétablir la confiance en sortant d'ici, ça va être vraiment important, puis ça va vraiment m'avoir aidé à le faire. Mes parents sont vraiment fiers de moi, là. T'sais, ils m'ont toujours poussée, puis t'sais, sans abandonner, ils avaient décidé de plus s'attendre au fait que j'allais pouvoir peut-être m'en sortir, t'sais.
On va être là aussi pour elle à l'extérieur avec nos programmes de réinsertion sociale. Donc, on reste présent pour elle et pour tous les autres pendant un minimum de 2 ans là, dans leur vie par la suite.
C'est magnifique ici, c'est vraiment... Des fois, on prend des périodes, on fait un peu de méditation sur le quai.
Est-ce que tu as peur de rejeter?
Ben oui. Oui, j'ai peur de rejeter. Mais la peur de rejeter revient aussi du fait que j'ai jamais connu autre chose à l'extérieur qu'une vie de consommation qui débauche. J'ai peur de rejeter, c'est sûr, mais il faut que je me fasse confiance.
On peut parler d'un retour réussi pour le Grand Prix du Canada qui a connu un achalandage record en fin de semaine. Plus de 338 000 spectateurs ont assisté aux 3 journées de l'événement sur le circuit Gilles Villeneuve. C'est le pilote néerlandais Max Verstappen qui a remporté la course, sa première victoire sur la piste montréalaise. Bien sûr, Nouveau Info était sur place. Il y a mon collègue vidéaste Jérôme Scalia qui nous a rapporté un moment de l'ambiance avant la course.
Là, c'est sa première fois aujourd'hui. Vraiment, pour avoir la piqûre, il faut vraiment se déplacer. Et moi, ça me rappelle ma jeunesse avec la voiture de course de Gilles Villeneuve. J'ai hâte qu'il découvre ça tantôt et il va entendre les moteurs pour la première fois.
Là, une journée comme aujourd'hui, ça vous fait vivre en communauté aussi avec les gens qui ont cette passion-là.
C'est plaisant de venir, l'ambiance est bonne. Assis à la télévision, c'est pas pareil, pas du tout, là.
On a vraiment des bons billets dans l'épingle. Et les voitures, on les voit très bien.
Oh, moi, ça fait plusieurs années que je rêvais de venir au Grand Prix pour l'ambiance. Je demeure sur la rive sud, donc j'entendais le bruit. J'avais tellement hâte de venir.
Mais pour les bruits, les dépenses, je pense que c'est juste une inconvénience, mais ça reste que l'événement est majeur et incroyable. Je pense que c'est un prix à payer, disons, pour cet événement.
Je viens au Grand Prix, bien, ça fait 30 ans, c'est une passion. On est bien, beau temps, mauvais temps, les courses, toujours très agréables. Hier, on avait de la pluie, mais c'était magique. Ça met Montréal en valeur et puis on fait partie des 22 villes au monde qui ont ça chez eux. Faut pas perdre ça, c'est essentiel.
Collègue Étienne Fortin-Gauthier, que vous allez retrouver 22 heures ce soir. Salut Étienne. Tu surveilles bien sûr la question de Hockey Canada qui est présentement devant un comité parlementaire. Il y a vraiment du retard qui s'est créé. On attend toujours le témoignage de la ministre Saint-Onge, mais les dirigeants de Hockey Canada ont poursuivi.
Oui, dans les dernières minutes, et j'écoutais ça, là, un des dirigeants, Scott Smith, président et chef de l'exploitation de Hockey Canada, on lui a demandé est-ce que les coachs ou des dirigeants de Hockey Canada ont participé aux gestes qu'on reproche à ces joueurs-là. Et il a dit « Je ne crois pas, mais je ne peux pas le confirmer. » Et il a dit également qu'on ne savait pas les détails de ce qui s'était passé. Il y a eu une enquête d'Hockey Canada, mais on ne sait pas quel joueur était vraiment impliqué, mais qu'Hockey Canada a quand même décidé de faire une entente hors cours.
Donc, il y a eu entente, mais là, on dit devant le comité qu'on ne sait pas ce qui s'est passé.
Donc, barrage de questions. Surtout, on va en parler avec l'avocate Sophie Gagnon de Jury Pop. Également, on va parler avec elle d'André Boisclair, qui s'expose à 2 ans de prison après ses admissions aujourd'hui.
Et parlons du gouvernement fédéral qui frappe fort contre l'industrie du plastique.
Oui, dès la fin de l'année, les entreprises ne pourront plus exporter de sacs de plastique ou de contenants en styromousse qui créent beaucoup de pollution. Grosse décision.
On regarde le 22h ce soir. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, 17h.